8h52 sur Europe 1, Arnaud Benedetti est avec nous pour son livre « Comment sont morts les politiques ». Ah tiens, on avait un petit truc à vous faire écouter.
Pardon. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire.
Oh, on n'a plus qu'à chercher une place tous les deux, monseigneur.
Oh, j'ai raté la transition, je vais... cet extrait de La Folie des Grandeurs, Louis Funès et Yves Montand. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Si, si, ils ont des compétences quand même, nos ministres, mais réduits peut-être à une forme d'impuissance. C'est la thèse de votre livre, le constat en tout cas que vous dressez dans l'ouverture de ce livre, Comment sont morts les politiques. Alors, on terminait sur cette question d'un retour, peut-être du refoulé, avec cette invocation de par de nombreux candidats, des mannes du général de Gaulle, de cette... ce thème de la souveraineté qui revient très fort dans les propositions des partis politiques. Il y a cette phrase très connue de Philippe Séguin qui disait, il y a de ça 30 ans, hein, « Les partis politiques sont des détaillants qui se fournissent tous auprès du même grossiste, l'Europe aujourd'hui. » Cette question de l'Europe aujourd'hui, Arnaud Benedetti, elle explique dans l'évolution du discours des politiques vers une forme, vers des propositions en faveur du protectionnisme, d'un rapport peut-être plus conflictuel aussi avec l'Union européenne.
Elle explique les grands clivages politiques qui se sont construits depuis maintenant 30 ans, depuis le traité de Maastricht. Moi, ce qui me frappe quand on regarde la cartographie électorale, finalement, c'est que depuis 1992, quand on regarde de manière granulaire l'évolution du vote, finalement, on retrouve la France du oui et la France du non qui continuent à se faire face avec, depuis en effet 2005, le sentiment que c'est plutôt la France du non qui domine dans l'opinion publique. Je crois que la question de la protection sera la question essentielle des futures échéances présidentielles. Parce que finalement, quand on a vendu le traité de Maastricht en 1992 aux Françaises et aux Français, on l'a vendu autour de deux promesses. Une promesse d'abord de protection, c'est-à-dire le fait qu'en étant unis, qu'on mettait en place un certain nombre de mécanismes qui seraient des mécanismes gérés au niveau européen, on protégerait mieux les populations des États membres de l'Union européenne et surtout avec une promesse de puissance. Le fait que le fait de s'unir ferait que l'Europe nous permettrait d'être plus puissants et d'avoir une voix plus forte dans le concert international. La réalité, c'est que le sentiment qui s'est diffracté depuis 30 ans, c'est que non seulement l'Europe ne protégerait pas, mais qu'en plus elle serait d'une certaine manière impuissante. Donc la réalité, c'est que le débat européen a fractionné l'ensemble des grandes forces politiques. On l'a vu à gauche, on l'a vu à droite, et il continue d'une certaine manière à fractionner le champ politique en France
et ailleurs. On voit que la recomposition s'opère de la manière suivante. Aujourd'hui, le clivage gauche-droite est un peu dépassé, parce que vous l'avez dit, des partisans du oui, il y en avait dans les deux camps, gauche et droite, des partisans du non également. Et on voit trois pôles aujourd'hui. Il y a d'abord cette gauche qui valorise la défense des minorités, qui s'est reconstituée autour de ce thème-là. On a un grand centre incarné par Emmanuel Macron qui promet la prospérité par le marché et la mondialisation, par l'ouverture. Et puis on a une droite de l'identité aussi qui commence à clairement s'affirmer pour que la France reste la France. Voilà, c'est le triangle du rapport de force politique.
Oui, c'est à peu près aujourd'hui le rapport de force tel qu'il s'instaure, c'est-à-dire avec une gauche qui donne le sentiment quand même d'avoir abandonné les classes populaires, notamment depuis la fameuse thèse Terra Nova qui préconisait d'aller chercher de nouvelles clientèles électorales pour vendre un nouveau modèle politique. Un parti centriste qui finalement a réussi à agréger le centre droit et le centre gauche, ces républicains des deux rives qui ne se parlaient pas parce qu'ils avaient une histoire différente en termes de formation politique, mais qui finalement défendaient le même logiciel politique. C'est la grande réussite d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir réussi à sauver des offres politiques traditionnelles qui étaient en grande difficulté grâce à sa candidature en 2017. Et puis en effet, il existe aujourd'hui à droite, plutôt, une droite qui se veut souverainiste et qui essaye de mettre la question de la protection au centre de son logiciel politique. Et qui,
c'est
si
pas
on
la
regarde,
protection, Arnaud Benedetti, je suis pas d'accord avec vous. C'est plutôt l'identité et même la question civilisationnelle.
Mais la question de l'identité et la question de la civilisation, ça ramène à ce que, par exemple, un politiste comme Laurent Bouvet appelle la sécurité culturelle. Donc la sécurité culturelle, c'est un sujet qui touche à la question de la protection. La question de l'identité, ça touche à la question, évidemment, aussi de la façon dont on se projette dans l'avenir en tant que nation. Mais le sujet de la protection sera essentiel. Il sera essentiel sur le plan économique, il sera essentiel sur le plan social, il sera bien évidemment essentiel sur le plan sanitaire, et il sera essentiel sur les grandes questions régaliennes, la question notamment de la sécurité, entre autres, et alors, la question d'identité.
Et il y a un quatrième groupe dont on n'a pas parlé, c'est celui par lequel vous avez commencé tout à l'heure, les abstentionnistes. Comment vous lisez ces gens-là ? L'abstention, est-ce que c'est l'expression d'un désintérêt du politique, ou simplement le fait qu'il y a l'offre en face ne correspond pas ? Est-ce que c'est une mise en retrait du collectif ? C'est la thèse défendue par exemple par Jérôme Fourquet, qui était à ce micro il y a quelques jours. Lui pense qu'il y a un désengagement, une mise en retrait, il n'y a plus le grand soir, il n'y a plus Dieu, il ne reste plus que la consommation. Et la politique, dans tout ça, on fait les frais d'une certaine manière.
C'est une forme d'objection de conscience civique, c'est-à-dire que beaucoup de Françaises et de Français n'exercent pas leur droit de vote parce qu'ils, bien évidemment, ils ne se retrouvent plus dans les offres politiques, considérant que ces offres politiques ne correspondent pas à leurs attentes. Mais c'est peut-être plus compliqué, c'est qu'il y a quand même encore une fois un besoin de politique qui s'exprime. On voit qu'il y a un certain nombre de mouvements sociaux à gauche, à droite, qui émergent. On voit qu'il y a des mobilisations qui, à la fois sur le terrain, mais aussi parfois de manière numérique, s'expriment. Donc il n'y a pas forcément un rejet de la politique, mais encore une fois, un rejet des formes classiques du politique.
Puis il y a des mobilisations thématiques. On recevait tout à l'heure Hélène Touy du Parti Animaliste, candidate d'une cause, d'une idée. Éric Zemmour également, qui est quelque part l'incarnation candidat d'une idée.
Oui, la vraie difficulté, c'est que finalement, il n'y a plus aujourd'hui un discours politique qui soit un discours politique agrégatif, qui porte une vision de la société, une vision d'ensemble. Donc à partir du moment où vous avez cette béance et vous avez ce vide, vous avez en effet des revendications thématiques qui émergent. En fait, globalement, ce à quoi nous avons assisté, c'est la disparition de ce que l'on a appelé le parti attrape-tout, le grand parti attrape-tout, qui permettait de traiter toutes les thématiques de la vie publique.
Merci Arnaud Benedetti. Comment sont morts les politiques ? C'est le titre de votre dernier livre aux éditions du Cerf, je le montre pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Bonne journée à vous. Bon.